Le Conseil national électoral est dirigé par 5 personnes et 3 d'entre elles seraient favorables au gouvernement. Alors on voit déjà que l'équilibre n'est pas préservé. Et bon, il y a eu des manœuvres dilatoires de toute évidence du gouvernement par l'intermédiaire de cet organisme, ce qui a provoqué cette réponse de l'opposition et d'une grande partie de l'opinion publique.
Alors Hugo Chavez accuse les États-Unis d'être à l'origine de la crise. Il parle même de plan américain. Quels intérêts les États-Unis auraient-ils à faire tomber Hugo Chavez ?
En ce qui concerne les intérêts qui conduiraient les Américains à agir, il ne faut pas oublier qu'il y a le pétrole. Ça peut sembler trop évident de le dire, mais c'est quand même un point essentiel. C'est quand même le pétrole qui est au cœur des relations entre le Venezuela et les États-Unis. Le Venezuela, c'est quand même le 3e, 4e fournisseur de pétrole des États-Unis. Et le pétrole vendu aux États-Unis représente quand même 60% des ressources du pays.
Est-ce que l'on peut s'attendre à un schéma identique à celui que l'on a pu observer en Haïti ?
Je crois que le point commun serait le fait que des gouvernants, des présidents démocratiquement élus, voient leur légitimité contestée par ceux-là même qui les ont portés au pouvoir. Bon, maintenant, concernant Haïti, il ne faut pas oublier qu'Aristide a été ramené au pouvoir en 1994 pour les Américains. Ça n'a jamais été le cas pour Hugo Chavez, qui a toujours préservé, défendu une certaine distance, hein, et c'est un euphémisme, par rapport aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, on ne peut absolument pas faire de comparaison.
Vous pensez que le peuple vénézuélien, l'opposition, est capable à elle seule de faire tomber Hugo Chavez ou qu'une intervention internationale, et bien sûr on pense en particulier aux États-Unis, est indispensable ?
D'après les déclarations qui ont été faites par la coordination démocratique, donc qui rassemble une trentaine de partis d'opposition et des ONG également, la solution revient aux Vénézuéliens eux-mêmes, bien évidemment. Bon, maintenant, c'est vrai que le rôle des observateurs internationaux, je pense notamment à l'OEA, au Centre Carter, qui étaient présents d'ailleurs au cours de ces dernières semaines et qui ont dénoncé précisément les manœuvres dilatoires du gouvernement en ce qui concerne l'organisation de ce référendum révocatoire, bon, la présence de ces observateurs, l'attitude des organismes internationaux et des gouvernements est absolument essentielle. Bon, maintenant, c'est vrai qu'une intervention directe, d'un autre côté, est difficilement envisageable et justifiable. Le Venezuela est un pays souffrant.
Alors Haïti, le Venezuela, est-ce que cette crise risque de faire boule de neige et donc contaminer entre guillemets les pays voisins ?
Écoutez, c'est ce qu'ont indiqué certains analystes et notamment un spécialiste de la révolution bolivarienne. Hein. Il insistait notamment sur le risque de déstabilisation continentale dont le foyer serait précisément le Venezuela. Donc là, ça renvoie bien évidemment aux relations du Venezuela, ou plutôt du gouvernement de Hugo Chavez avec Cuba. Il faudrait évoquer également tout ce qui est mouvement de résistance dans certains pays latino-américains, notamment en Équateur, en Bolivie. Donc de toute évidence, il y a une question de stabilité régionale qui se pose aujourd'hui.
Quel avenir politique, selon vous, pour le Venezuela ?
Bon, compte tenu de la dégradation de la situation politique, de la question des droits de l'homme, d'une violence politique croissante, bon, de toute évidence, une issue pacifique à la crise est loin d'être envisageable à court terme.